monde aujourd'hui. Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du vendredi 6 décembre 2024. Les Ghanéens sont appelés aux urnes demain samedi pour élire un nouveau président et renouveler l'Assemblée nationale. Manifestation au Tchad pour le départ des troupes françaises. Au Mozambique, les violences post-électorales ont fait au moins 90 morts selon une ONG. En France, la réouverture de Notre-Dame de Paris a lieu demain en présence de mécènes et d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, dont le président américain élu Donald Trump.
On entend sa voix et elle nous dit « je suis là » et elle nous attend. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment totalement bouleversant.
Tout ce qu'il faut savoir sur la cathédrale dans la partie magazine. En Syrie, le chef des rebelles dit vouloir renverser le président Assad. Ne manquez pas notre page fort ainsi que la Minute Éco. On commence par le journal. Les Ghanéens sont appelés demain samedi aux urnes pour élire leur prochain président. Les principaux enjeux de cette élection sont le chômage, la corruption et une économie en difficulté. Le point avec Rosine Monizero.
Le scrutin de samedi s'annonce comme une course serrée entre le candidat du nouveau parti patriotique NPP, l'actuel vice-président Mahamudu Bawumia, et l'ancien président et porte-drapeau du NDC, John Mahama, qui affirme qu'il mérite une nouvelle chance d'accéder au poste suprême. Économiste formé au Royaume-Uni, M. Bawumia s'est efforcé de prendre ses distances avec ses critiques, affirmant que les perspectives s'améliorent. Il promet également de maintenir les politiques de gratuité de l'éducation et de la santé du NPP. Son rival John Mahama affirme vouloir créer une économie de 24 heures, c'est-à-dire étendre les heures de travail des entreprises pour créer plus d'emplois et augmenter la production. Premier producteur d'or d'Afrique et grand exportateur de cacao, le Ghana est depuis longtemps le favori des investisseurs et le bastion de la stabilité démocratique dans une région frappée par de récents coups d'État, des contestations constitutionnelles et des insurrections. Les résultats de l'élection de samedi devraient être connus mardi afin de sélectionner un nouveau parlement et de décider du successeur d'Akufo-Addo qui doit se retirer après deux mandats.
Des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui à N'Djamena pour soutenir l'appel lancé la semaine dernière par le gouvernement tchadien en vue de mettre un terme à la coopération militaire avec la France. Alexandrine Ollognon.
Les manifestants scandaient « Le Tchad pour nous, la France dehors ». Certains brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Nous ne voulons pas voir un seul Français au Tchad ». Certains manifestants se sont rendus vendredi sur une base aérienne militaire où sont stationnés des soldats français et ont réclamé leur départ. D'autres se sont rassemblés devant l'ambassade de France où ils ont dû faire face à une ceinture de sécurité très forte de l'armée tchadienne qui assurait la sécurité de l'ambassade. Jeudi, une première manifestation avec les mêmes slogans a réuni quelques centaines de personnes à Abéché, une ville commerçante de l'est du pays. La semaine dernière, le Tchad a annoncé dans un communiqué qu'il mettait fin à un accord de coopération en matière de défense avec la France afin de redéfinir ses partenariats stratégiques en fonction des priorités nationales. La France a maintenu environ 1000 soldats au Tchad et la déclaration ne précise pas quand ils devront partir. Le Tchad a déclaré que la décision de mettre fin à l'accord ne remettait nullement en question ses liens historiques avec la France et qu'il souhaitait maintenir des relations dans d'autres domaines d'intérêt commun.
La Somalie a accusé aujourd'hui l'Éthiopie d'ingérence dans sa région méridionale du Jubaland, dernière péripétie en date de l'escalade des tensions entre les deux voisins d'Afrique de l'Est. Ils sont à couteau tiré depuis que l'Éthiopie, pays enclavé, a conclu en janvier dernier un accord avec le Somaliland, région sécessionniste de la Somalie, pour louer une partie du littoral afin d'y installer un port et une base militaire en échange de sa reconnaissance. Au moins 90 personnes sont mortes au Mozambique dans les violences toujours en cours depuis les élections du 9 octobre, marquées par de multiples irrégularités, a annoncé aujourd'hui le mouvement local issu de la société civile Plataforma Decide. Les précisions de John Lydon.
L'organisation, qui diffuse des bilans réguliers dans ce pays où les confirmations de mort par la police sont rares, a comptabilisé 90 personnes tuées depuis le 21 octobre, date des premières manifestations, quelques jours après l'assassinat de deux figures de l'opposition dans une embuscade dans la capitale Maputo. La victoire du parti historique au pouvoir, le Frelimo, est contestée depuis des semaines dans la rue par l'opposition qui affirme avoir gagné la présidentielle et a lancé une nouvelle phase de manifestation mercredi dans ce pays lusophone dirigé sans interruption par le Frelimo depuis son indépendance en 1975. Le porte-parole de la police Orlamo Mutumane a confirmé la mort mercredi de 5 personnes. Le Conseil constitutionnel doit confirmer les résultats électoraux au moins 2 semaines avant l'investiture en janvier de Daniel Chapeau, le candidat du Frelimo déclaré vainqueur et devant succéder au président sortant Philippe Nyusi. L'ex-candidat à la présidentielle et principal opposant Venancio Mondlane s'attribue plus de 53% des voix lors du scrutin et affirme que Daniel Chapeau, déclaré vainqueur avec 71% des suffrages selon la commission électorale, a obtenu moins de 36% des voix.
En Afrique du Sud, l'assassin du militant anti-apartheid, Chris Hani, remis en liberté conditionnelle en 2022, après une trentaine d'années derrière les barreaux, a été expulsé ce vendredi vers la Pologne, a annoncé le gouvernement sud-africain. Cette expulsion de Janusz Wallus, aujourd'hui âgé de 71 ans, ne sera pas financé par les contribuables sud-africains, y compris la veuve de Chris Hani, mais par la Pologne, a précisé le ministre des Affaires intérieures, Léon Schreiber. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé aujourd'hui l'envoi d'experts en République démocratique du Congo pour aider les autorités sanitaires à identifier une maladie jusqu'ici inconnue à l'origine de plusieurs décès dans la province du Kwango, dans le sud-ouest. Les experts de l'OMS en route pour Panzi, une localité de cette province reculée, devait fournir des médicaments et des kits de diagnostic pour aider à analyser la pathologie. Une épidémie de choléra se répand rapidement dans le nord du Soudan du Sud, qui abrite des milliers de réfugiés, a alerté aujourd'hui l'ONG Médecins Sans Frontières. Dans un communiqué, au moins 737 cas ont été rapportés en un mois dans l'état du Nil supérieur, selon MSF. L'épidémie est concentrée à Malakal, la capitale de cet état, qui fut un florissant lieu d'échanges commerciaux avant d'abriter des réfugiés, mais elle s'est répandue dans d'autres régions du pays, y compris dans la capitale Juba.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, après avoir pris Alep et Hama, en moins d'une semaine, les rebelles sont aux portes de Homs, à 150 km de la capitale Damas, l'avancée la plus spectaculaire en 13 ans de guerre dans ce pays. Jacques Aristide.
Les rebondissements militaires touchent également l'est et le sud du pays, meurtri par une guerre complexe qui a fait un demi-million de morts depuis 2011 et l'a morcelé en zone d'influence avec des belligérants soutenus par différentes puissances étrangères. Face à l'offensive entamée à la surprise générale le 27 novembre, à partir de la province d'Idleb, fief des rebelles dans le nord-ouest syrien, les forces du président Bachar al-Assad se sont retirées ou livrées à des combats sporadiques. Principal allié du pouvoir syrien, la Russie, prise par sa guerre contre l'Ukraine, a appelé ses ressortissants à quitter la Syrie. En 2015, elle était intervenue avec force pour aider militairement les troupes de M. Assad à inverser le cours de la guerre et à reprendre une grande partie du territoire. Si les rebelles s'emparent de Homs, la troisième ville du pays, seuls Damas et la côte méditerranéenne seront encore aux mains des forces de M. Assad, dont la famille est au pouvoir depuis plus de 5 décennies en Syrie.
Ici aux États-Unis, Donald Trump a dit aujourd'hui conserver sa confiance en Pete Hegseth pour prendre la tête du Pentagone, malgré des accusations d'agression sexuelle et de consommation excessive d'alcool à l'encontre de cet ancien militaire et présentateur de Fox News. Le président élu veut ainsi mettre un terme aux tergiversations jusqu'au sein du camp républicain sur le choix de cet ancien militaire de 44 ans pour prendre la tête d'un ministère employant plus de 3 millions de personnes et doté d'un budget budget de défense dépassant les 800 milliards de dollars en 2023. Mais c'est le Sénat américain chargé aux États-Unis de confirmer les nominations pour certains postes à haute responsabilité qui aura le dernier mot. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol paraît proche de la chute ce vendredi après avoir été lâché par son propre parti qui a jugé qu'il constituait un danger pour le pays à la veille d'un vote au Parlement sur sa destitution pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Les députés d'opposition ont décidé de camper dans l'hémicycle jusqu'à l'examen de la motion de destitution samedi soir. Des manifestations pour réclamer le départ de l'impopulaire président conservateur devraient, selon la police, rassembler des dizaines de milliers de participants samedi devant le Parlement et dans le centre-ville de Séoul. Les organisateurs prévoient pour leur part 200 000 manifestants. Et puis le président russe Vladimir Poutine et son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko ont signé aujourd'hui à Minsk un traité prévoyant des garanties de sécurité mutuelle. La Russie a déployé en 2023 des ogives nucléaires en Biélorussie, État voisin et allié, le premier déploiement de ce type depuis la fin de l'URSS en 1991.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
Le Forum sur l'énergie des groupes de réflexion Chine-Afrique 2024 a débuté hier à N'Djamena. Plus de 70 experts et universitaires chinois et africains se réunissent sous le thème de la modernisation et des nouvelles opportunités. Les participants vont élaborer des stratégies pour encourager l'innovation et renforcer la coopération sino-africaine. Une autre rencontre sur l'énergie s'est tenue à Lomé cette semaine, le sommet de la coopération énergétique en Afrique de l'Ouest, visant à mobiliser les investissements pour moderniser des infrastructures. Selon le commissaire chargé de l'énergie et des mines de la CDAO, Sedi Kodouka, les découvertes de gaz naturel au Sénégal, en Mauritanie et en Côte d'Ivoire pourraient jouer un rôle clé dans le paysage énergétique régional. Lors d'une rencontre hier à Madrid avec le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a dévoilé un plan pour renforcer les liens économiques et diplomatiques entre l'Espagne et l'Afrique. Lors d'une conférence de presse commune, le président mauritanien a salué l'engagement de l'Espagne à tripler ses investissements dans la région.
Place maintenant au sport avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Jean Roger, bonsoir à tous.
Football, Lionel Messi désigné meilleur joueur de la MLS.
Oui, l'Argentin âgé de 37 ans a mené l'Inter Milan en tête du championnat après la saison régulière avec 74 points. Un record en MLS, mais la saison s'est achevée de façon brutale pour Miami et son champion du monde 2022. Pour sa première année complète aux États-Unis après avoir rejoint Miami en juillet 2023 en provenance du Paris Saint-Germain, Messi a brillé avec 20 buts et 16 passes décisives lors de la saison régulière, bien qu'il ait manqué 16 rencontres. La finale du championnat oppose samedi le Los Angeles Galaxy aux Red Bulls de New York.
Tirage au sort du Mondial des clubs.
Oui, les quatre représentants africains, Al Ahly d'Égypte, le Wydad de Casablanca du Maroc, l'AS Tunis et le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud connaissent désormais leurs adversaires de la phase de groupe du Mondial des clubs. Le tirage au sort a eu lieu hier jeudi 5 décembre à Miami, ici aux États-Unis. Dans le groupe A, Al Ahly du Caire fera face au club hôte, l'Inter Miami de Lionel Messi, un match d'ouverture de ce tournoi, puis au FC Porto et à Palmeiras. L'Espérance sportive de Tunis est logée dans la poule D et va affronter Flamengo, Chelsea FC et le club Lyon. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud partage le groupe F avec Fluminense, le Borussia Dortmund, les Allemands donc, et Ulsan. Le Paris Saint-Germain, lui, va retrouver l'Atlético Madrid et affronter le club brésilien Botafogo de John Textor lors de la phase de groupe de ce Mondial des clubs l'été prochain ici aux États-Unis.
La NBA annonce son retour en Chine avec des matchs de pré-saison.
Oui, et ce retour se fera en 2025 pour la première fois depuis 2019 avec deux matchs de pré-saison à Macao, annonce Mark Tatum, le numéro 2 de la Ligue nord-américaine de basketball, confirmant une information de la chaîne ESPN. Aucun match n'a été organisé en Chine depuis 2019 et deux rencontres de pré-saison suivies avec une publication polémique sur Twitter en faveur des manifestations à Hong Kong de Daryl Morey, alors manager des Houston Rockets.
Page de sport VOA Afrique signée Bagasikura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Présidentiel demain au Ghana, l'ancien président ghanéen John Mahama est l'un des principaux opposants au candidat du parti au pouvoir, Mahamudu Bawumia, lors des élections nationales ghanéennes du 7 décembre. Le reportage de Mariama Diallo est relaté par Dili Diko.
Dans les rues de la capitale ghanéenne Accra, les panneaux publicitaires des différents candidats en lice pour l'élection présidentielle de décembre sont omniprésents. L'excitation des électeurs est palpable. Depuis 1992, le pays est gouverné par deux partis politiques, le National Democratic Congress ou le New Patriotic Party, et cela ne devrait pas changer selon l'analyste Kwame Assa Asante.
De 1992 à 2020, les partis mineurs, si l'on met bout à bout toutes leurs performances, en moyenne, ils n'ont pas atteint les 5%. Ils n'ont pas réussi à se faire élire. Ils n'ont pas dépassé les 5%. Mais c'est vrai aussi, s'ils peuvent atteindre plus de 4% de leur force, ils sont capables de pousser l'élection à un second tour.
Certains électeurs se disent fatigués des deux partis et n'ont pas encore décidé pour qui ils allaient voter. Angela Ofori est une électrice indécise.
Depuis 1992 jusqu'à cette année, nous n'avons pas changé de parti. Tous les jours, c'est NPP, NDC. Nous voulons du changement.
Le Ghana est le deuxième producteur mondial de cacao selon le programme des Nations Unies pour le développement. Mais le pays a fait défaut sur la majeure partie de sa dette extérieure de 30 milliards de dollars en 2022, après que les effets d'années d'emprunt aient été aggravés par l'impact mondial de la pandémie de Covid-19. Écoutons à nouveau le docteur Asante.
L'économie jouera un rôle important parce que c'est une question de base. Nous avons vu à maintes reprises qu'à chaque fois que l'économie est très difficile, la campagne devient difficile pour le gouvernement en place.
Un point de vue partagé par John Tadden, professeur adjoint à l'université Pepperdine en Californie.
Au Ghana, l'inflation a atteint un niveau historique de 54% au cours des 18 derniers mois. Mais à l'intérieur du pays, ils ont dû faire face à de nombreuses protestations soutenues concernant l'exploitation minière illégale. Une crise qui a eu lieu dans le sud où des personnes sans permis d'exploitation minière se sont livrées à une destruction constante de l'environnement sans aucune surveillance ou restriction de la part du gouvernement.
Ces problèmes ont poussé certains électeurs à dire qu'ils ne voteraient pas pour le gouvernement actuel. Ils préfèrent John Mahama du NDC, un ancien président qui a fait son retour et qui promet de booster le développement des entreprises et la création d'emplois. Écoutons Wisdom Gaver, un électeur du NDC.
Actuellement, nous utilisons un système d'équipe unique. Si l'économie de 24 heures se met en place, il y aura trois équipes. Par exemple, une centaine d'employés travaillent dans une organisation. Donc, si l'économie de 24 heures arrive, il y aura 300 employés.
D'autres disent qu'ils resteront avec le candidat du New Patriotic Party au pouvoir et actuel vice-président Mahamudu Bawumia, lui donnant tout le crédit pour certains des changements politiques que son parti a apportés au pays. Ivan Duke est un électeur du NPP.
Une politique dont je suis très heureux est la politique de numérisation. Cette politique consiste à créer des emplois en ligne, à rendre tout plus accessible et à abandonner des méthodes traditionnelles pour passer à la modernité.
Bien que certains sondages suggèrent que les résultats pourraient pencher d'un côté ou de l'autre, certains analystes affirment que l'élection de cette année devrait être très compétitive.
Dans une interview, le ministre marocain des Affaires étrangères a déclaré en novembre que son pays envisageait de sortir les pays du Sahel central, tels que le Burkina Faso, le Niger et le Mali, de leur isolement grâce à un programme de développement conjoint et d'accès portuaire connu sous le nom d'Initiative Atlantique. Les détails avec Henri Wilkins, le récit est de Nathalie Bage.
Les pays du Sahel central, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, poursuivent leur lutte contre les groupes armés qui ont semé l'instabilité dans la région. Ces deux dernières années, ils ont coupé les liens avec la France et les États-Unis, qui leur fournissaient une assistance militaire, et avec la CEDEAO, qui regroupe certains de leurs partenaires commerciaux les plus proches. Les régimes militaires du Sahel central ont déclaré que ces entités entravaient leurs efforts pour vaincre les djihadistes. Dans un entretien le mois dernier, le ministre des Affaires étrangères marocain a déclaré que son pays tente de sortir la région de son isolement. Bakary Sambé, de l'Institut de Tombouctou au Mali.
Le fait de lancer cette initiative atlantique, dont l'objectif déclaré est de connecter les pays côtiers et de désenclaver les pays du Sahel, entre toujours dans cette perspective marocaine de s'illustrer en tant qu'un État qui doit sauvegarder ses liens historiques, mais aussi ses intérêts stratégiques.
Selon Paul Melli, consultant à Chatham House, bien que le Maroc ait un poids économique et un intérêt stratégique dans la stabilité en Afrique de l'Ouest, sa position géographique pourrait rendre l'initiative difficile.
L'économie de l'utilisation des ports marocains, vous savez, soit vous passez par la Mauritanie, auquel cas c'est un chemin incroyablement mauvais, soit vous traversez le Sahara. Je pense qu'il faudrait passer par la Mauritanie. Dans ce cas, vous savez, c'est géographiquement un très long chemin.
L'expert souligne que les conditions de sécurité rendent la route du Sahara dangereuse. Malgré des relations tendues, les pays enclavés du Sahel central dépendent encore fortement des pays côtiers limitrophes pour l'accès aux ports comme le Sénégal, le Bénin, le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire. Bakary Sambé, de l'Institut de Tombouctou au Mali, estime que la diplomatie culturelle pourrait être plus efficace.
Le Maroc a réussi pendant la prévention de l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme à former les imams, c'est-à-dire promouvoir un type d'islam tolérant qui pourrait être une alternative par rapport à l'extrémisme religieux.
Selon lui, les États côtiers devraient adopter une vision à long terme des relations et garder à l'esprit que les juntes militaires sont probablement une phase passagère dans l'histoire de la région.
La journaliste ukrainienne Natalia Goumeniouk a été l'une des premières à enquêter sur l'enlèvement d'enfants ukrainiens par la Russie. Lors d'une cérémonie à Washington, elle a été récompensée pour son travail aux côtés de la journaliste burkinabé Mariam Ouedraogo et d'autres professionnels des médias de Gaza, d'Inde et de Belgique. Liam Scott nous en parle depuis Washington. Le récit est de Rosine Monezero.
Scène émouvante lors de la réunion d'enfants ukrainiens avec leur famille en 2023, après avoir été enlevés par les forces russes. Le gouvernement ukrainien estime qu'environ 20 000 enfants ont été enlevés depuis le début de la guerre. La Russie nie avoir commis des actes répréhensibles et affirme qu'elle protège les enfants vulnérables. Les informations sur les enlèvements ont été révélées grâce à des journalistes d'investigation comme Natalia Goumeniouk. La journaliste était à Washington en décembre pour recevoir un prix pour son travail de la part de Reporters sans frontières, également connu sous son acronyme français RSF.
En parlant aux survivants et aux témoins directs des crimes de guerre, nous pouvons prouver que ce qui s'est passé n'est pas une tragédie mais un crime. Et cette attitude nous donne du pouvoir.
Madame Goumeniouk est la cofondatrice de The Reckoning Project Ukraine Testifies, un groupe qui forme les journalistes à enquêter sur les crimes de guerre. Selon elle, les journalistes jouent un rôle important dans le conflit.
Le journalisme ukrainien est loin d'être parfait, mais il existe. C'est une force, il est important, il influence la politique, il influence les actions du gouvernement pendant la guerre et il faut le chérir et le préserver.
Lors de la remise des prix, Mme Goumeniouk a demandé que justice soit rendue à son ancienne collègue Victoria Rojetina. La journaliste est décédée en décembre lors d'une détention en Russie et les autorités ont refusé de rendre son corps à l'Ukraine. Mariam Ouedraogo a également été honorée lors de la cérémonie. Journaliste d'investigation du Burkina Faso, elle réalise des reportages sur les violences sexuelles liées au terrorisme pour le journal public Sidoya.
Je pense que tout un chacun a le droit d'être informé et de s'exprimer aussi. Donc c'est dans cette diversité-là qu'on construit les nations, les bonnes choses.
Wael Al-Daoudou étant notre lauréat, chef du bureau d'Al Jazeera à Gaza, M. Al-Daoudou a partagé un message vidéo depuis l'Allemagne où il reçoit un traitement médical après avoir été blessé à Gaza. Plusieurs membres de sa famille et des collègues ont été tués depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. C'est le conflit le plus meurtrier jamais enregistré pour les journalistes.
Même si le monde semble de plus en plus sombre pour le journalisme, nous célébrons les journalistes qui sont courageux et qui ont un impact, qui sont indépendants et qui incarnent la liberté de la presse au quotidien.
Lors de la cérémonie, RSF a reconnu les risques auxquels les médias sont confrontés à Gaza et dans le monde entier. Elle a également honoré des journalistes indiens et belges pour l'impact de leur travail.
Plus de 5 ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale le 15 avril 2019, la réouverture de Notre-Dame de Paris va être officialisée demain samedi par un discours présidentiel sur son parvis avant les coups de crosse épiscopales qui consacreront l'ouverture de ses portes. Outre le président élu américain Donald Trump, une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement assisteront à la réouverture de la cathédrale selon une liste non exhaustive publiée par la présidence française. Jacques Aristide nous en dit davantage.
Sa flèche qui s'embrase puis s'effondre. Le 15 avril 2019, les images de Notre-Dame de Paris en flammes font le tour du monde.
Je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale, nous la rebâtirons.
Le président Emmanuel Macron fixe un horizon de 5 ans. Une course contre la montre s'engage, ponctuée d'imprévus, de polémiques et d'exploits. Mais l'élan de solidarité est sans précédent. Les dons affluent du monde entier après l'incendie. Environ 900 millions de dollars récoltés auprès de 340 000 donateurs de 150 pays. Paris tenu, reconstruction et restauration réussie à la date prévue. Coût total, près de 739 millions de dollars, entièrement financés par les dons. Cheryl Woodcroft, une touriste australienne.
C'est magnifique, c'est tellement impressionnant de voir tout le travail qui a été fait. C'est merveilleux que des gens aient pris la peine de le faire parce que c'est un tel hommage à Paris.
L'argent restant va être réaffecté à la troisième phase du chantier, à savoir les travaux extérieurs qui devraient durer jusqu'à 2030. Mais certains parlent déjà de résurrection de Notre-Dame. Père Guillaume Normand, vice-recteur de la cathédrale.
On entend sa voix et elle nous dit « je suis là » et elle nous attend. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment totalement bouleversant.
D'autres ont hâte de vivre le moment tant attendu ce samedi. Emily McKinnon, une jeune Canadienne qui se dit être la plus grande fan de Notre-Dame.
J'adore le roman, j'adore la comédie musicale Notre-Dame de Paris, j'adore la cathédrale et l'histoire, j'adore tout. C'est vraiment toute ma vie.
Eugénie Rakoto-Harrisoy, une retraitée de 64 ans.
Beaucoup d'émotions et je trouve que c'est fabuleux. Tout ce travail qui a été fait et merci à tout le monde. Et j'ai hâte de revoir Notre-Dame dans son état actuel. D'ailleurs, j'ai vu Notre-Dame quelques semaines avant l'incendie. J'habite à Paris. Et là, j'ai hâte de revoir Notre-Dame tel que c'est maintenant.
Un dispositif de sécurité exceptionnel, inspiré de celui des Jeux Olympiques de Paris, est prévu avec 6000 policiers et gendarmes mobilisés. Au moins 35 chefs d'État et de gouvernement ont confirmé leur présence à la cérémonie samedi soir, dont le président élu des États-Unis, Donald Trump, les présidents de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. L'actuel président américain Joe Biden va être représenté par son épouse Jill. Le président Macron, actuellement en mauvaise posture politique, mise sur ce rendez-vous qu'il a érigé au rang des fiertés françaises, comme les JO de Paris, prédisant un choc d'espérance.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Villon à ce micro, à la mise en onde de Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.